toutes et à tous, je vous invite à vous installer pour que l'on puisse commencer. On ne veut pas non plus vous prendre trop tard dans la soirée. Alors, maintenant, vient un petit peu, parce qu'il y a des soucis pour se garer, parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde chez nous, mais en fait, il y a aussi ce soir aux résidences, la bataille des municipales s'organise au CCSRB, puisque le maire Damien Messot organise une réunion juste en bas, la salle familiale. Et donc, nous sommes nous, la démocratie, il faut respecter la démocratie et le débat. Et ce soir, nous souhaitons, nous, en tous les cas, montrer que dans cette bataille des municipales, il y a bien sûr deux listes principales, la nôtre et la sienne, et il y a surtout deux projets totalement très différents l'un de l'autre, et vous le verrez, vous le découvrirez au fur et à mesure que nous allons égrener notre projet pour les Belfortins. Ce soir, nous avons fait le choix de faire une thématique culturelle, parce que nous avons l'ambition de présenter un projet culturel pour un Belfort en grand, et donc une culture qui soit vue également à cette échelle-là. La culture, ça sera avec notre équipe en grand également. Et comment le faire de façon la plus grande? Eh bien, c'était d'organiser ce soir non seulement un débat sur le programme, mais en ce moment il y aura beaucoup de réunions publiques et beaucoup de débats, mais l'idée était de le faire de façon originale. Et donc, nous avons la chance de recevoir François Clavier, qui va nous offrir, et je voudrais vraiment qu'on l'applaudisse très très fort au moment de son arrivée, il va nous offrir son spectacle. La culture doit être évidemment accessible à tous, à tous les Belfortins, quelles que soient leurs origines sociales, culturelles et évidemment territoriales. Quel que soit le quartier dans lequel on vit à Belfort, la culture doit être accessible. C'est cela le message que l'on voulait donner ce soir en ouvrant ce débat sur la culture avec un spectacle. Un spectacle évidemment gratuit. C'est la 186e représentation du spectacle sur le discours de la servitude volontaire. C'est un spectacle de haut niveau, mais nous souhaitions évidemment mettre également le débat sur la culture à ce niveau-là. Et il parle évidemment de ce que nous essayons de faire dans cette campagne des municipales. Donc, la soirée, ça sera très simple. D'abord, place au spectacle. J'espère que ça vous fera... Ça sera un vrai cadeau et un vrai plaisir ce soir. Et ensuite, nous vous présenterons avec Bastien Chaudeau les propositions que nous aurons à débattre avec vous ce soir, avec la complicité de quelqu'un qui connaît bien le milieu culturel belfortin, puisqu'il en a été un des acteurs. C'est Thierry Vautreau, qui était, il y a encore peu, le directeur de la scène nationale du Granit, qui nous fait l'honneur de venir participer à notre débat, mais qui nous fait aussi surtout l'honneur de soutenir notre liste et la proposition que nous faisons au niveau du programme pour les Belfortins. Voilà la soirée, donc nous ferons un petit bilan de la situation culturelle, nous vous présenterons les grandes propositions de notre programme, et ensuite nous ouvrirons évidemment un échange avec toutes et tous. Alors je voudrais évidemment vous remercier d'être venus nombreux, c'est une gageure, on a fait le pari de remplir la salle, c'est une belle salle, et je suis sûre que la différence sera faite avec le sous-sol en bas et l'autre salle. Merci. Merci. Donc, je vous propose de passer maintenant à la deuxième partie de notre soirée. Donc, l'échange que nous souhaitons avoir avec vous sur les propositions que nous souhaitons faire en matière de culture. Mais avant de proposer, il convient peut-être aussi de faire un état des lieux de la situation aujourd'hui à Belfort. Et donc, en quelques interventions, nous allons évidemment dresser cet état des lieux. À la fois Thierry Vautreau et Bastien Flodo vont vous faire un développement donc, sur cet état des lieux. Et puis nous participerons évidemment ensuite à la présentation de nos propositions et bien sûr à l'échange que nous souhaitons avoir avec vous ce soir.
Voilà, il fonctionne. Alors, je vais me... Bon, c'est bien, je reste assis, comme vous. Bon, la transition est un peu difficile, mais on va y arriver. Au fond, peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense qu'il y a une morale très simple à ce qu'on vient d'entendre. C'est, ça dépend de vous. Ça dépend de nous. Et on va aborder, en fait, dans le cadre de la campagne des élections municipales, un sujet essentiel qui a été abordé à l'instant par François à travers le discours de la servitude volontaire. C'est l'idée très précieuse, à mon sens, et on le voit aujourd'hui dans les politiques publiques qui ont été mises en œuvre à Belfort, comme dans beaucoup d'autres collectivités en France, dans beaucoup d'autres villes, dans beaucoup d'autres régions, dans beaucoup d'autres départements, c'est que le travail de l'éducation populaire, mais de l'éducation nationale, le travail pour l'action culturelle dans une ville, les libéraux, d'une façon générale, c'est quelque chose qu'il regarde avec beaucoup de suspicion, ou en tout cas dans lequel il ne met que très peu d'énergie pour une raison toute simple. C'est qu'il m'est impossible de mesurer immédiatement les bénéfices pour la population du lent et du long travail que suppose l'éducation et la culture. Et que dans une société... Pardon pour cette introduction un peu théorique, mais dans une société qui ordonne, oblige et exige des résultats immédiats, eh bien, ce lent travail de fond qui infuse dans le corps social, dans la société, dans les consciences, chez l'ensemble des individus, c'est quelque chose que les politiques de droite et les politiques libérales ont tendance, disons au moins, à négliger. Dans le meilleur des cas, à négliger. Dans le pire des cas, à décider sciemment de les mettre par terre pour éviter une chose essentielle, c'est l'éveil des consciences et des peuples. Alors, je veux en venir à des choses très concrètes de ce qu'on a vécu dans le dernier mandat du point de vue de l'action culturelle à Belfort. D'abord, l'état des lieux, c'est, puisque les libéraux parlent d'argent et de comptes, le budget dédié à la culture et à la ville de Belfort. Hors prise en charge des salaires et des rémunérations du personnel, le budget de la ville est passé dédié à la culture de 3,1 millions d'euros à 2,2 millions d'euros en 6 ans. C'est une baisse de 31%. Alors, qui, pour des raisons invoquées, bienvenue François, qui pour des raisons invoquées sont toujours liées à des problèmes de comptable. Mais les choix, lorsqu'on décide parallèlement de mettre 800 000 euros dans Givroux et qu'il en manque 900 000 dans l'ensemble des actions culturelles, on voit, même si c'est de façon présenté de façon un peu caricaturale, mais je l'assure, où sont et où vont les priorités. La Boétie, pas toi, mais grâce à toi, la Boétie, le dit très bien. sur les jeux à robe, l'utilisation de tout ce qui suscite l'émotion immédiate. Et à Belfort, de ce point de vue, je le disais, le budget était très largement transvasé sur des actions d'animation que je ne regarde pas du tout avec mépris et avec dédain, mais qui ne jouent pas du tout le même rôle du point de vue de l'éducation populaire. Alors, Belfort, c'est une ville dans laquelle, pendant des décennies, un travail de fond a été mis en œuvre pour bâtir deux choses. D'une part, des structures culturelles de haut niveau, et parmi celles-là, la première que je vous citais, c'est la scène nationale du théâtre Granit. Il a fallu obtenir le label, rentrer, mettre en œuvre, en fait, le cahier des charges de l'État. Il y a à ma droite un expert qui connaît le dossier sur les doigts, puisqu'il a été directeur du théâtre Granit. C'est aussi un centre chorégraphique national. C'est aussi l'association Territoire de musique qui organise les Eurocaines et qui a fait connaître Belfort à travers toute la France et même au-delà. C'est le théâtre de marionnettes. C'est la multiplicité d'associations qui travaillent dans le domaine du théâtre, de la danse, de la musique, avec la seule force du cœur, de l'âme, de la volonté, c'est de faire. De façon bénévole. C'est un certain nombre de structures qui portent la culture populaire, la culture amateur, mais aussi la culture professionnelle, la culture professionnelle, avec là aussi des personnes qui œuvrent chaque jour pour offrir à Belfort une programmation culturelle qui, très longtemps, et aujourd'hui encore, parce que ça résiste, eh bien, a permis à une petite ville d'aujourd'hui moins de 50 000 habitants de disposer de structures culturelles de haut niveau. Il faut que chacun prenne conscience que ça a pris des années à être bâti, que ça prend du temps pour réunir les personnes, les compétences, les métiers, que ça prend du temps pour financer, apporter l'ensemble des structures qui permettent d'accueillir le public, qui permettent d'organiser en fait l'ensemble de ce. Donc on parle des structures, des institutions. Et puis il y a les événements. Et on est tout aussi fournis. Je vais parler du film, bien entendu. Événements populaires, s'il en est. 3 jours, 4 jours de musique gratuite, où tous les Belfortins, quelle que soit leur couche sociale, leur quartier, défilent, déambulent dans la ville. Des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. C'est bien entendu les Eurocaines de Belfort. C'est aussi les Mercredis du Château, les solstices au théâtre de marionnettes. C'est Entrevue, le festival de cinéma. Tout cela, c'est la gauche qui l'a apporté. Il n'y a pas un seul des événements, ni aucune des structures que je viens de nommer, qui n'ait pas été porté par des équipes politiques qui était celle de la gauche qui a exercé la responsabilité à l'effort entre 1977 et 2014. Les événements ont été maintenus dans le mandat de Damien Meslot, mais souvent avec des moyens un peu réduits. Les structures, elles, ont subi des attaques ou une érosion progressive. Les choses, du point de vue les logiques comptables des libéraux avaient commencé un petit peu avant, les baisses de subventions ont diminué. Mais je dois dire une chose, c'est que, d'une façon générale, dans toutes les villes, et c'était le début de mon propos, lorsque les cantons de la bourse commencent à se resserrer, lorsque les moyens manquent un peu à la puissance publique locale, le domaine de l'éducation populaire et en particulier de la culture, sont les premiers d'une façon générale à subir les baisses budgétaires. Pour les raisons que je disais au départ. Comme il n'y a pas de bénéfice immédiat, on n'en voit pas les effets immédiatement. Alors, une partie des responsables politiques préfèrent privilégier ce qui est rentable immédiatement. D'abord dans l'opinion publique, du pain, des jeux. Ça, c'est rentable immédiatement. Et je pense qu'il y a une part de cynisme, de clientélisme politique qui conduit à négliger les structures. J'ai oublié également d'évoquer, bien entendu, le Conservatoire de musique, le nouveau Conservatoire de musique, puisqu'il a été construit dans le mandat d'Étienne Gutzbach. Donc, que s'est-il passé concrètement ? Rien de neuf en termes d'événements, rien de neuf en termes de structure pendant 6 ans, depuis 2014. Des baisses de subventions. J'ai vu tout à l'heure le président du Théâtre du Pilier, quelque part, il est dans la salle. Le Théâtre du Pilier, c'est une association, peut-être Jackie, tu pourras en parler, qui a perdu des subsides publics de façon importante dès la première année de mandat d'Hélène Eslo. Le Théâtre Granit a perdu au total depuis 2010, mais surtout depuis 2014 et 2015, de l'ordre de 250 000 euros. Faisant que cette structure aujourd'hui, et Thierry va vous expliquer tout ça beaucoup mieux que moi, une scène nationale a un cahier des charges. Elle doit faire de la création, intervenir dans les écoles, milieux scolaires, de la pédagogie et de la diffusion. Aujourd'hui, il n'y a pour ainsi dire plus de création dans les structures de scène, de la scène nationale, à Belfort. Alors que nous avons eu ici, pendant des années, au Palais Troupe à résidence, mais des artistes associés, je pense que François, si je dis les noms, on va les connaître, peut-être qu'il les a en tête, je pense à Jean-Luc Lagarde, à Ludovic Lagarde, donc des personnalités qui faisaient vivre une programmation vraiment aussi très riche, en fait. Et Belfort n'était pas seulement un lieu de diffusion, mais aussi un lieu où se passait une partie de la création artistique dans notre pays. Donc, je pense que dans tout cela, et je terminerai par ce point, et on en parlera sans doute à la fin du débat avec François, parce que j'ai une question très précise à lui poser, je pense que tout cela souffre d'une mauvaise compréhension des choses. Dans le débat public sur la culture d'une façon générale, on a tendance à confronter culture populaire et culture élitiste. La réalité, c'est qu'à Belfort, il n'y a jamais eu autant de culture populaire que lorsqu'il y avait simultanément autant de cultures dites élitistes, avec des programmations exigeantes et avec de la création ici dans notre ville. Et la question pour nous qui est posée, mais là moi j'en reste à la question de l'état des lieux, c'est quels moyens une nouvelle équipe municipale acceptera de dédier à la culture. On a diminué aujourd'hui, on est passé à 7,2% du budget de la ville et de l'agglomération. C'est très faible au regard de ce qui a existé dans les années 80, 90 et dans les années 2000, où Belfort a eu jusqu'à près de 15% du budget de la ville qui a été dédié à la culture. Est-ce qu'on est en mesure de le faire aujourd'hui, remonter à 15%? Honnêtement, je ne le crois pas, parce qu'il y a des contraintes qui s'exercent, mais être capable de redonner un coup de fouet significatif à la culture, en faisant confiance aux professionnels. Vous avez sans doute vu un article, pour ceux qui lisent Les Républicains, sur la situation plus que préoccupante du théâtre Granit aujourd'hui. Eh bien, je pense que, qui est quand même le phare, pour, en fait, d'une certaine façon, pour l'ensemble de l'action culturelle à Belfort, sa vitrine aussi. La question, c'est quels choix, quels arbitrages budgétaires serons-nous prêts à donner pour que une équipe politique, au sens noble du terme, progressiste, qui est pour mission, ou parmi ses missions, la préoccupation majeure de donner à Belfort une vitalité artistique et donc aussi une attractivité, parce que ça fait partie de l'attractivité de la ville, quels sont les moyens qu'une équipe politique est prête à donner à des choses qu'on ne peut pas mesurer et qu'on ne peut pas, dont on ne peut pas décider des bénéfices immédiats ou évaluer les bénéfices immédiats. Et ça, c'est notre mission. Je passe tout de suite la parole à Thierry pour peut-être que vous nous disiez, Thierry, ce que vous, comme professionnel, jusqu'en 2017-2018, vous avez dirigé la scène nationale, comment vous avez vécu les choses, quels sont les défis surtout qui vous paraissent être devant nous pour maintenir à Belfort un haut lieu, en fait, de la culture pour l'ensemble du Nord-Franche-Comté, puisqu'on ne parle pas de Belfortois, Belfortin. Les gens qui viennent au théâtre à Belfort viennent de tout le Nord-Franche-Comté. Et comment on peut relancer une équipe et un lieu qui semble aujourd'hui, disons, pas utiliser un terme trop polémique, mais abîmé.
Bon, oui, dis quelque chose, Bastien. La première chose, c'est qu'effectivement, alors ça, c'est tout à fait un témoignage personnel, je suis venu à Belfort, je suis originaire de Belfort au départ, j'avais fait un grand tour de France professionnellement, et j'ai été candidat à la direction de cette maison parce que c'était le granit. Parce que, non pas parce que c'était Belfort, mais c'était vraiment parce que c'était granit, et que le granit vivait dans un environnement culturel, socio-politico-culturel, tout à fait riche par rapport à la taille de la ville et très intéressant. Ça, c'est vraiment important, quand on est candidat dans la direction d'une maison comme celle-là, de se rendre compte qu'il y a énormément de choses qui se passent dans cette ville, et que, à l'époque encore, il y avait un soutien politique très très fort. Tout ça pour faire un petit raccourci dessus, c'est de dire est-ce que la question des moyens, etc., etc. Bien évidemment, la question des moyens, elle est totalement liée à la question du sens qu'une équipe politique va donner à la politique culturelle. Et le sens qu'il donne à sa politique culturelle, je dirais qu'il va beaucoup plus loin que ça, et on le voit bien, on le sait. Il y a eu deux grands ministres de la culture entre 1960 et maintenant. Malraux, du temps de De Gaulle, 58, Jack Lang, du temps de Mitterrand, 81. Et c'est vraiment un moment donné où un gouvernement, un chef de l'État, donne une vision très forte d'une orientation politique, que la culture peut se déployer, qu'elle peut trouver des moyens, et que les moyens sont toujours liés au sens qui est donné sur le plan politique par les édiles, par les élus, que ce soit d'ailleurs au niveau municipal, au niveau étatique, etc., etc. Et ça, c'est extrêmement important de se le dire, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, quand on prend une ville, quand on est maire d'une ville, on prend la ville avec ses équipements, et on peut se dire, bon, ben voilà, ça coûte trop cher. Et puis on peut maintenir juste une programmation minimale, comme ça on va trouver l'argent pour faire autre chose de soi-même, avoir cette fameuse marge de manœuvre que les politiques cherchent pour marquer de leur sceau, que ce soit dans le domaine culturel ou ailleurs, leur empreinte politique, leur empreinte de leur mandat au singulier, au pluriel. Donc c'est difficile de prendre un héritage comme celui de Belfort. D'autant plus que cet héritage, il avait perdu un peu de sens. C'est vrai que les années 80, 90, 2000, c'était quelque chose de formidable à Belfort, et puis qu'après, petit à petit, on est rentré un peu au domaine de la gestion, et que toute cette innovation qui s'est faite, qui fait qu'effectivement, il y a deux établissements, par exemple, de l'appel national, ce qui est extrêmement rare dans une ville de 50 000 habitants, ça se trouve plutôt à... j'ai l'exemple du Havre, par exemple, là, il y a une scène nationale et un centre chorégraphique national, il y a une scène nationale, un centre chorégraphique national, sont des villes de cette taille-là, qui ont autant d'équipements, les équipements de label national, ne nous gargarisons pas sur le label national, mais c'est quand même une qualité, et puis c'est des moyens que met l'État, à un moment donné, et qu'il apporte à une ville, qu'il apporte à un territoire, pour remplir un cahier des charges. Et dans ce cahier des charges, il y a effectivement le fait de proposer une affiche, un programme, des abonnements, des spectacles. Et puis il y a aussi d'autres choses qui sont notamment la présence des artistes dans un territoire pour qu'ils créent des spectacles, pour qu'ils les tournent ici et ailleurs. Et ça, bien évidemment, comme dirait M. de la Palisse, si on ne crée de spectacles nulle part, il n'y en aura plus pour les accueillir, il n'y aura plus lieu pour les accueillir. Et il faut bien créer, contribuer à ce que ces spectacles existent. Et en plus, quand ces artistes sont là, qui sont là de façon pérenne, ils travaillent dans le théâtre, ils travaillent avec les populations, et il y a effectivement un ferment, il y a un sol qui est cultivé, comme il l'a été pendant très longtemps à Belfort. Donc, un rapport évident, pour ne pas être trop long, entre les moyens, puisque vous posez la question de est-ce qu'on sera à la hauteur des moyens, etc. Oui, les moyens, il faut des moyens supplémentaires aujourd'hui. Le granit a perdu plus de 300 000 euros, et ces 300 000 euros, c'est ce qui permettait, entre autres, effectivement, de faire tout ce travail de création. Pour vous donner un exemple, très parlant par rapport à cette question de création, parce que quelquefois on pourrait avoir tendance à gargariser et on pourrait dire ça n'intéresse que les artistes et nous-mêmes la création. Nous, ce qu'on veut, c'est des bons spectacles, le reste on s'en fiche. Ça, c'est dommage de penser ça. En tout cas, pour vous dire que dans l'année 2011-2012, on a produit, créé et coproduit un certain nombre de spectacles de granit Et dans les deux années qui suivent, ces spectacles-là, produits, coproduits par Uranil, ils ont tourné plus de 500 fois. En France entière et au-delà, en Suisse, en Belgique, l'espace francophone. Et donc ça, c'est quand même, quand effectivement il se produit quelque chose dans un théâtre comme celui-là, il rayonne dans la francophonie, et ça c'est extrêmement important. Ça crée tout ce maillage et ces contenus formidables qui ont fait que sûrement la politique culturelle française, on peut encore le dire maintenant, même si c'est moins évident, et du point de vue notamment du spectacle vivant, est la politique culturelle la plus développée et la plus décentralisée surtout. On pourra vous dire qu'en Allemagne, il y a des très gros théâtres, oui, il y a des très gros théâtres dans des très grandes villes. Mais allez voir les villes de 50 000 habitants en Allemagne, vous verrez que c'est pas si terrible que ça. Je ne parle pas d'Italie, je parle pas d'Angleterre. C'est tout à fait terrible. Donc, on a cette chance encore, et on a cette chance d'avoir remis pendant très très longtemps la politique culturelle, la politique artistique, l'éducation artistique, etc., aux populations, aux préoccupations des populations, et on a eu la chance pendant très longtemps d'avoir des maires, des adjoints qui portent ça de façon dynamique, engagée. J'espère que Belfort pourra retrouver ce dynamisme et cet engagement. Rien n'est perdu, mais c'est vrai qu'on met beaucoup de temps à faire exister des théâtres ou faire exister des structures culturelles comme celle-là. On ne met pas beaucoup de temps pour les casser. La preuve, on est, c'est la fin de ce passionnant.
Merci beaucoup. Merci Thierry. Donc, vous avez bien compris le niveau d'exigence que nous avons souhaité pour le sujet de la culture, pour, je l'espère, le mandat qui va venir, avec ce magnifique texte de la Boétie. On souhaitait évidemment aussi poser l'exigence également pour nous, futurs élus. On a beaucoup entendu de choses en résonance par rapport à la vie démocratique aujourd'hui, par rapport au rôle des élus, le message a bien été entendu, et par rapport au rôle du peuple également. Cette exigence-là, nous souhaitons la tenir évidemment sur trois sujets principaux, et le sujet de ce soir est un des sujets. La culture, nous la voudrons exigeante dans le prochain mandat, de la façon dont nous l'entendons, il s'agit évidemment de s'éloigner de ce qui peut faire qu'abuser le peuple, de l'amusement, il en faut, de la culture populaire, il en faut, mais de la culture pour ne pas endormir, mais plutôt pour réveiller les esprits. C'est en tous les cas cette exigence-là que nous aurons. Alors l'état des lieux vient d'être fait, il y a en effet quelque chose d'abîmé, pas de choses clairement supprimé. Point prochain mandat, ça sera peut-être pas le cas si les mêmes restent aux affaires, parce que ça les a quand même un petit peu titillés. Ils se sont dit qu'ils allaient quand même pas démonter tout en 6 ans ce que d'autres avaient mis 40 ans pour construire. Le prochain mandat sera donc évidemment un mandat très important si on veut garder ce qui a été fait aujourd'hui sur Belfort, et il sera évidemment important pour reconstruire ce qui a été abîmé, et puis aussi pour ouvrir grand les portes et les fenêtres sur tout ce qui est innovation, parce qu'il ne s'agit pas pour nous, jeunes élus, futurs en responsabilité, de se dire, oh, bah, après tout, ce qu'il y a, c'est plutôt bien, c'est suffisant, on va continuer à dormir encore 6 ans. Notre proposition, c'est plutôt de partir sur l'existant. Il y a en effet de belles choses qui se font à Belfort, de belles institutions qu'il nous faut évidemment préserver, à qui il faudra redonner non seulement des moyens, mais aussi la confiance. Parce que je crois qu'il y a aussi un élément qui a été rompu dans ce mandat-là, c'est la confiance entre les élus et le monde artistique, et bien sûr les personnels qui sont dans ces institutions. Alors on partira de l'existant. Et ce qu'on va proposer, ce sont aussi de nouvelles choses, parce qu'il faut aussi constamment renouveler les propositions en matière culturelle. Alors on va vous en citer quelques-unes que l'on souhaite évidemment mettre en débat. L'ambition culturelle qui sera la nôtre, elle sera en réalité au cœur de la vie sociale. Nous souhaitons avoir un espace dédié au savoir autour de la bibliothèque. Il a été question des livres ce soir, à la fois sur la scène, mais aussi la lecture qui en a été faite. Nous souhaitons redonner aux livres une place dans la ville et nous avons un projet de réunir autour de la bibliothèque un pôle des savoirs ou un pôle autour du livre où on pourrait regrouper l'ensemble des archives, les archives municipales, les archives départementales, et pour que cela ne soit pas uniquement un lieu où on va rechercher de l'information, un espace de vie aussi. Nous proposerons que dans cet espace soit installée une université citoyenne qui puisse aussi amener sur la table les grands débats de société, ceux qu'on a aujourd'hui dans les réseaux sociaux, ceux qui sont manipulés aussi par les grands médias d'information rapide et aussi traités de façon raccourcie. Nous considérons que nous pouvons faire société que si nous posons certains grands débats de société dans notre ville avec l'ensemble des publics. Et donc cette université citoyenne essaiera de renouer avec les grands débats qui traversent nos sociétés, qui traversent la société française, mais qui traversent aussi des problématiques beaucoup plus internationales. Il s'agit de conflits mondiaux, il s'agira de tas de sujets sur lesquels on a tous un avis, ou alors on a tous envie d'avoir un éclairage pour se positionner ensuite. Le tout sans être dans des choses violentes, parce que nous pensons que poser toutes les questions qui font débat ne sont jamais un problème à partir du moment où nous les aborderons de la façon la plus intelligente et la plus élevée. Voilà, ça c'est la première proposition. On viendra évidemment à détailler les choses quand on sera en responsabilité, puisque ça nécessite quelques aménagements, cette proposition. La deuxième proposition, c'est autour de la peinture. Nous avons en effet aujourd'hui la donation Jardot qui a des œuvres tout à fait importante et intéressante, qui ne connaît pas l'attractivité qu'elle devrait par rapport à certains tableaux qui sont présents là. Donc l'idée, c'est de réunir autour de la donation Jardot un espace d'exposition plus important. C'est un sujet qui revient régulièrement. Le maire en a beaucoup parlé pendant ce mandat, ça n'a pas été fait. Donc c'est un projet que nous souhaitons porter en réalisation rapidement. La troisième proposition, c'est un passeport culture, une carte culture à 1 euro. Parce que la question de l'accessibilité de la culture est également posée à l'ensemble des populations. Et comme nous l'avons annoncé ce soir, la culture avec nous, ça sera pour tout le monde. Donc la barrière du tarif sera supprimée. Et donc nous proposons une carte culture à 1 euro qui donnera accès non seulement au musée de la ville, à la citadelle, mais également à la bibliothèque municipale. On va renouer évidemment avec les grands événements. Il y a un embryon d'événements qui a été lancé lors de ce mandat, mais nous considérons qu'il n'a pas été mis au niveau où il aurait dû l'être. Et nous souhaitons renouer avec ces grands moments que nous avons vécu ensemble autour de l'histoire de Belfort, où les Belfortins ont non seulement redécouvert l'histoire de leur ville, l'histoire des populations qui nous ont précédés, mais dans des moments un peu de liesse, d'enthousiasme, qui ont vraiment fait aussi que Belfort s'est ressoudé, tous les Belfortins se sont ressoudés autour d'un événement culturel et bien sûr historique où on a pu tous prendre une place. Je pense évidemment au grand événement que nous avons connu il y a quelques années que l'on avait appelé le 700e anniversaire de la ville de Belfort, un moment de liesse populaire où nous avons pu emmener dans cette commémoration l'ensemble des associations, l'ensemble des structures culturelles, mais également toutes les associations des quartiers. Et donc l'idée, c'est de renouer avec ces temps forts sur un événement biannuel, parce que ce sont des choses très lourdes à porter. Donc la proposition, c'est de recréer un festival d'histoire vivante tous les deux ans avec un son et lumière que l'on pourrait évidemment proposer à l'ensemble des Belfortins sur lesquels ils pourraient travailler toute l'année. Et je pense évidemment à la structure dans laquelle nous sommes ce soir. Aujourd'hui, les centres socioculturels ne participent plus à rien. On les a mis de côté après avoir vidé de leurs bénévoles. L'idée, c'est aussi de raccrocher nos espaces d'éducation populaire dans chaque quartier. C'est aussi une des spécificités de Belfort, d'avoir un centre culturel, une maison de quartier par quartier dans la ville. C'est de les raccrocher aussi à la vie de la cité et aux grands événements culturels. La quatrième proposition, ce sera la création d'une ludothèque à la bibliothèque. En effet, le livre est important. Aujourd'hui, il y a de plus en plus aussi d'adeptes du jeu, et notamment des jeux de société. Et là aussi, ça ne doit pas être un obstacle, le coût pour acquérir un jeu de société. Et donc, nous souhaitons proposer aux Belfortins la création d'une ludothèque. Relancer, évidemment, nous l'avons dit tout à l'heure, un pôle de création au théâtre Granit et au centre chorégraphique national. Et enfin, deux dernières propositions, un concours annuel des arts urbains, ce qu'on appelle le street art. L'idée, ce sera de lancer donc un concours chaque année avec un artiste lauréat pour essayer de faire aussi que la culture s'installe un peu plus dans la ville. L'idée, c'est également de renouer avec ce qu'on a pu connaître. Je pense à la fresque d'Ernest Pignon-Ernest sur le parking des Nouvelles Galeries aujourd'hui. L'idée, c'est de remettre de l'art dans la ville et au bout de 6 ans, de faire un parcours d'art des différentes œuvres, des différents lauréats. Donc, une année, un artiste, une œuvre. Et enfin, la dernière proposition, elle concerne évidemment les étudiants, parce que une ville qui a la prétention d'être une ville étudiante doit aussi pouvoir accueillir de façon attrayante cette population. Donc les étudiants auront un certain nombre de propositions dans le programme, mais une des propositions en matière de culture, ça sera la création d'un pass culture pour les étudiants. Voilà, de façon très très résumée, nos propositions en matière culturelle. Et donc maintenant, je vous propose d'intervenir à la fois sur peut-être quelques mots sur le spectacle que nous avons eu la chance de découvrir ce soir, l'honneur aussi par rapport au cadeau qui nous a été fait, et puis bien sûr le bilan qui a été posé par Bastien et puis par Thierry Vautreux, et puis les propositions que nous faisons ce soir. Voilà, donc il y a un micro, deux micros qui circulent dans la salle, donc la parole est à vous.
Libre, il suffit de lever la main. Votre personne n'a rien à dire.
La première intervention est toujours la plus difficile. Voilà, ici. Le micro arrive, le micro arrive.
Vous avez parlé d'une université citoyenne et on a une université populaire. C'est quoi la différence?
Je répète. Donc, vous parlez d'université citoyenne et on a une université populaire. Et en fait, je voulais savoir quelle était la différence que vous faisiez entre les deux.
Alors, ce qu'on propose. Oui, on en prend plusieurs.
Question ou intervention, avis, désaccord.
On va vous répondre. Hein.
Oui, bonsoir. Alors déjà, merci beaucoup pour ce très beau texte. Merci pendant le programme, merci beaucoup de me parler de la bibliothèque, parce qu'on a été obligé pendant ce mandat de se battre pour les moyens de la bibliothèque, et merci aux élus d'opposition de nous avoir soutenus, hein, parce que l'écriture pour tous, on s'est battu pour retrouver une partie des crédits de la bibliothèque. Malheureusement, une partie du personnel n'a pas été réaffectée à la bibliothèque, donc elle est en manque de moyens. Et puis, mais ça, on a profité pour doubler le prix d'adhésion annuel quand même. Hein, voilà. Donc, merci beaucoup de penser aux tarifs d'accès à la bibliothèque, ça me semble important. Et moi, je me permets une suggestion, est-ce qu'on ne pourrait pas étudier la question de la gratuité d'accès à la bibliothèque et au musée? Il y a beaucoup de villes qui se lancent dans ces possibilités, hein, de gratuité, des grandes villes, mais pas que. Je ne sais pas si ça coûte excessivement cher, mais en tout cas, ça les rend très, très attractifs. Et puis, dernier point, c'est une question. On n'a pas parlé des centres socioculturels et de leur gestion, avec maintenant une gestion centralisée par OICOS. Est-ce que vous envisagez de retravailler sur une démocratie un peu plus importante dans chaque centre socioculturel?
Bonsoir, moi je voulais proposer plutôt une autre institution, si vous voulez, une autre infrastructure qui soit conséquente, à savoir les grandes d'autres grandes villes possèdent une partie de Beaubourg. Moi je verrais bien dans la région une partie de l'Institut du monde arabe qui est dirigé maintenant par Jacques Lang. Je voudrais voir avec Sandra, que c'est plus performant que moi là-dessus, et installer cette nouvelle structure.
D'autres interventions?
Oui, j'ai deux points. Donc moi, je suis parent d'élèves élus dans les écoles Dreyfus-Schmidt et Ruclin. Et nous avons souvent soulevé la problématique concernant les transports. Nous sommes notamment des écoles les plus éloignées des centres culturels qui proposent la culture ou le théâtre ou le cinéma. Et nous, on a des enfants en maternelle ou en élémentaire qui circulent à pied jusqu'au centre-ville, et souvent partant de public, donc c'est très difficile. Donc peut-être envisager de repenser les dotations de transport vis-à-vis la situation géographique, mais aussi économique et sociale des écoles. Et par ailleurs, la municipalité en place, même avant, propose pendant les vacances scolaires des activités liées au sport. Est-ce qu'il serait possible d'envisager des initiations également au niveau de la culture? Ce serait intéressant pour les enfants de pouvoir découvrir par ce moment d'autres intérêts culturels qui n'ont pas forcément accès au quotidien par rapport à leur situation. Merci.
On va peut-être commencer à répondre à cette série de propositions. Bon, on fera ça à deux voix. Alors, d'abord peut-être sur... On a vraiment donné les propositions, les grandes propositions. Donc dans le programme, il y a évidemment d'autres mesures, et alors en lien avec la question des associations et la question de l'éducation. Donc au niveau de l'éducation, nous allons proposer deux choses par rapport aux interventions que vous avez faites. Je ne développerai évidemment pas le programme éducation, mais sur ce que vous soulevez, Donc la question de du transport pour aller dans les structures culturelles, donc nous proposons de rétablir la gratuité, comme ça l'était avant, des transports scolaires pour les sorties culturelles, notamment culturelles, c'est essentiellement les sorties culturelles. Le deuxième point, c'est que sur l'initiation à la culture, nous souhaitons mettre en place un programme « La culture à l'école », qui sera proposé au-delà des projets éducatifs que porte chaque maîtresse dans sa classe, qui sera proposé par école. Et donc l'idée, c'est de faire une enveloppe dédiée pour que l'école se saisisse d'un sujet culturel, y travaille toute l'année. C'est un dispositif qui existe à l'échelle des collèges que nous souhaitons développer également à l'école primaire. Donc culture à l'école. Voilà les deux éléments de réponse. Sur les centres socioculturels, évidemment, c'est un point qui n'a pas été abordé ce soir parce que c'est un sujet que nous avons mis dans le programme au niveau de la vie associative. Donc, nous proposons un retour en termes de gouvernance dans les centres socioculturels, un retour des bénévoles et du monde associatif sur chaque structure. Donc l'idée, c'est pas de revenir sur la totalité de la mutualisation, mais nous redonnerons de la vie démocratique dans chaque centre en rétablissant les associations de centres socioculturels. Un élément sur l'université populaire. L'idée, c'est évidemment pas de faire concurrence à IDÉ, qui fait son travail, qui est évidemment une université populaire, et on a bien fait attention de dire que c'est une université citoyenne, parce que nous souhaitons que les élus, que la municipalité se saisissent elle aussi, alors ça n'aura rien à voir avec le programme d'IDÉ, se saisissent de sujets importants qui traversent la société et sur lesquels nous souhaitons aussi avoir une prise, parce qu'il y a aussi des incidences par rapport à ces sujets sur la vie dans la cité, sur la participation ou non d'une certaine partie de catégorie de population, etc. Donc c'est des choses qui ne se concurrencent pas. Ça avait d'ailleurs été fait lors d'une précédente municipalité où on avait fait le choix d'inviter certains sujets des débats, notamment au niveau international, dans la vie municipale.
Je me permets une suggestion qui est le fruit de l'expérience de ce point de vue-là, parce que je me souviens d'avoir discuté avec un précédent adjoint à la culture et tout ça, à qui je lui avais dit que je souhaitais qu'on remette en place justement on peut appeler ça des soirées filou, des soirées de ce qu'on veut, politique, etc. Pas forcément politique, mais en tout cas où il y a tellement aujourd'hui de choses à dire sur l'évolution de la sphère politique, politico-économique, etc., etc. Et je lui avais suggéré que soit associé la scène nationale de Granit, parce que tout simplement parce qu'on avait une salle, parce qu'on avait le public et qu'on était capable de faire ça. Si vous arrivez aux affaires, n'oubliez pas d'associer ceux qui sont sur le terrain, ils sont capables d'amener du monde, ils sont capables de travailler avec vous, parce que j'ai regretté dans un premier temps Belfort que les choses se fassent de façon un petit peu trop cloisonnée. Or, moi j'ai des très très bons souvenirs à Toulon-Métain notamment. De réunions, de soirées autour de grands débats de société, et ça fonctionnait magnifiquement bien.
Sur les tarifs,
En fait, moi, je rêve d'un truc sur l'université citoyenne, c'est quand on va pas se pouvoir, évidemment, c'est qu'on puisse réussir ce que on parlait de décrochage sur France 3 quand on peut être national ou régional, en fait, qu'on puisse décrocher BFM pour montrer François sur BFM Télé, en pleine soirée. L'idée, en fait, de l'université citoyenne, c'est mettre en place un cycle de conférences, effectivement, sur des sujets qui font écho, ça vient de le dire, de manière à ce que le débat public ne soit pas enfermé, que la CNUR est dans des instances, juste des institutions et des assemblées, mais que, parce que c'est l'affaire de tous et des citoyens, que ce soit quelque chose qui vive dans la cité. Sur la question qui a été posée tout à l'heure par Evelyne, je crois, sur la question de la bibliothèque et de son accès et de la gratuité. Alors, on n'en est pas loin dans la proposition qu'on fait, puisqu'on propose une carte culture à 1 euro. Alors, carte culture à 1 euro qui donne accès à la bibliothèque et à l'ensemble des musées de la ville. 1 euro par an. C'est évidemment une somme symbolique, parce que quand on passe à 1 euro, on peut passer à 0, les recettes de la ville ne s'en trouvent pas diminuées. Mais la question, c'est, au plan symbolique, comme il peut exister parfois dans le domaine de la justice, des condamnations à l'euro symbolique, là c'est pas une condamnation, c'est une façon de dire aux gens, gardons tous conscience que, évidemment, ça a un coût. Et ce n'est pas parce que les choses sont gratuites qu'elles n'ont pas de valeur. Le monde libéral a traduit toutes les valeurs en argent. Donc la question centrale, c'était, donc vraiment de la mesure symbolique, une carte culture à 1 euro pour tous les Belfortins, qui donne accès à tous les Belfortins aux structures que nous avons évoquées, c'est-à-dire la bibliothèque et l'ensemble des musées de la ville. Samia me glisse, par ailleurs, 1 euro, en fait, c'est le prix de la carte. Donc c'est la carte prix coûtant. Donc, je pense, peut-être qu'on n'avait pas été suffisamment clair sur cet aspect. Je crois que c'est Alain Jacquinot qu'on a entendu avec la casquette là-bas au fond à droite, si j'ai bien reconnu. C'est une excellente idée, Alain, que vous avez évoquée à l'instant. Alors, dans l'idée, en fait, on a eu un peu le même raisonnement que vous. Effectivement, il y a eu le Louvre, Lens. Il y a le centre Pompidou à Metz, la Moselle, le Sillon Mosellan, le Pas-de-Calais, Lens, le Nord-Pas-de-Calais, sont des territoires qui ont connu la désindustrialisation. Il y a eu des choix et des politiques fortes de l'État qui ont conduit à décentraliser une partie de l'action culturelle, qui est évidemment très centralisée dans notre capitale Paris, de façon à essaimer dans le pays, notamment dans les territoires qui en prennent plein la gueule, pardon pour dire les choses de manière aussi triviale, mais qui morflent sérieusement face au phénomène de la désindustrialisation, de disposer de véritables institutions culturelles sur les territoires, comme on dit, de façon à aider ces territoires. Alors nous, on a imaginé autre chose que un institut du monde arabe. Mais l'idée est vraiment... Enfin, en tout cas, elle percute lorsque vous avez évoqué ça. L'idée, nous, c'était de nous asseoir sur ce qui existe. Belfort, très longtemps, a été connu d'abord par le Lion, ensuite aussi, un peu au moins, même beaucoup, par Jean-Pierre Chevènement. Mais depuis 30 ans, c'est une ville qui est très connue, notamment par la jeunesse, par le Festival des Euroquais. L'idée est d'envoyer un signal aussi à la jeunesse. Ce n'est pas un territoire voué à subir le vieillissement de sa population. Ce n'est pas un territoire d'émigration où les gens en partent pour aller faire leurs études. C'est un territoire où nous avons vocation à offrir un avenir, et pas un simple futur, un bel avenir à la jeunesse. Et la question, en fait, qu'on s'est posée, c'est qu'il existe cette institution des Euroquais, elle vit 3 jours par an, pas pour les gens qui bossent. Parce qu'un territoire de musique, pour faire la programmation, ils y travaillent toute l'année. Mais on a, à travers cette expérience maintenant ancienne, expérience technique, d'abord, on en a parlé récemment avec l'un de ses principaux, principaux acteurs qui la font vivre, j'ai encore aujourd'hui le Festival des Européennes. Il faut savoir une chose que j'ai appris dans cette discussion, c'est que nous avons, par exemple, à Belfort, une vraie école qui s'est faite, une école sans les institutions et les formations, ça s'est fait sur le tas, de techniciens du spectacle hors pair, des gens qui tournent dans le monde entier, parce qu'ils se sont formés, en fait, sur le tas pendant le Festival des Européens. Et on a une double idée. La première, c'est de mettre en place, alors, ça se passera nécessairement dans un dialogue et d'une négociation avec l'État, pour dire les choses clairement, si on veut construire quelque chose qui soit fort et puissant. Pour rester dans cette idée des musiques actuelles et des technologies, parce que ce soit pour le son, la lumière, la régie, les spectacles de rock de la dimension des Européennes mobilisent des savoir-faire tout à fait épatants et qui continuent d'innover considérablement. Et donc l'idée, en lien avec l'université des technologies qu'on a ici à Belfort et les lycées techniques, ce serait de mettre en place une vraie formation nationale des arts et techniques du spectacle vivant. Il en existe une dans le domaine du théâtre, mais là on parle sur des échelles de spectacles beaucoup plus importantes, en s'asseyant en fait sur les compétences existantes, les ingénieurs qui sont partout dans la ville, les ingénieurs en formation qui sont à l'UTBM, mais aussi sur les lycées techniques, pour mettre en place une vraie filière qui va du pré-bac au post-bac sur cette question-là. Et l'idée encore plus ambitieuse, c'est de proposer, elle prendra sans doute du temps, mais qu'on puisse, il existe beaucoup de conservatoires en France, des institutions publiques, j'en parlais cet après-midi avec François, notamment les écoles supérieures de théâtre, j'ai appris qu'elle avait 12, moi j'avais en mémoire 5, mais ça s'est essaimé. Il n'y a pas en France aujourd'hui d'école publique, je dis bien, il y a une grande école privée à Nancy. Mais il n'y a pas en France aujourd'hui d'école publique des musiques actuelles, rock, blues, électro, rap. Et nous souhaitons, on ne pourra pas le faire seul, mais instaurer et installer à Belfort, à terme, un équipement de cette ampleur et de cette nature pour que le rock, ce ne soit pas seulement 3 jours par an, au moment des européennes, mais autour de cette identité musicale et pour la jeunesse, il y a des talents qui existent dans tous les quartiers, il y a des styles musicaux, peu importe le goût des uns et des autres, hein, mais des styles musicaux qui naissent dans les cadres, dans les quartiers populaires. Je pense à la culture hip-hop, à la culture rap, par exemple, qui ont besoin, en fait, de cadres, y compris de véritable transmission des savoirs. Et donc l'idée, c'est de mettre en place, de ce point de vue, pour avoir quelque chose qui se construise toute l'année, des jeunes artistes en résidence, mais aussi, si demain nous parvenons à avoir des promotions jeunes qui apprennent, en fait, qui sont là dans une logique de transmission, le rock, les musiques actuelles, à Belfort, c'est aussi de la jeunesse qui sera disponible, mais pas seulement disponible, mais aussi volontaire pour faire vivre les cafés en ville, pour créer l'animation et l'attractivité, en fait, du centre-ville. Donc, la question, elle est vraiment, de ce point de vue-là, assez basse. On n'est pas parti sur l'idée de l'Institut du monde arabe, hein. On est parti sur quelque chose qui se greffe à deux choses existantes. D'une part, le Festival des Anglais pour la partie artistique et technique, mais aussi sur les compétences existantes à l'université et au lycée. J'aimerais poser une question à François avant de passer la parole à la salle. Dit un texte là très fort, qui a 5 siècles, un texte très exigeant, qui n'est pas écrit dans notre langue, on va en parler, c'est une adaptation, presque une traduction. Dans le grand débat de la culture populaire, entre guillemets, versus la culture exigeante, ou la culture élitiste, etc., c'est un texte a priori élitiste. Pour les latinistes, avec les références latines, grecques, l'histoire de la bataille de Salamine, Marathon, etc. Tu l'as joué 186 fois maintenant. Comment ça se passe du point de vue de la réception? Et comment toi, tu... Ah, tiens, d'où t'es venue l'idée d'oser jouer un texte aussi difficile pour... tenter de le rendre, pour le rendre accessible. Voilà. Parce que ça ne m'apparaît pas une mécanique simple du tout.
Alors moi, je ne connaissais pas ce texte. Donc, en 2010, Stéphane Desrues m'a envoyé ce texte. Je ne connaissais pas non plus Stéphane Desrues, le metteur en scène. J'ai lu ce texte, j'ai été absolument ébloui. Et donc, je lui ai eu au téléphone et je lui ai dit, c'est formidable, je suis tout à fait d'accord pour le faire. Il me dit oui, mais j'ai pas d'argent. Je m'en fiche, on fait comme ça. Il m'a dit non. Bon, alors, ok. Puis 3 semaines plus tard, il m'a rappelé en me disant mon administratrice me dit qu'il nous reste un peu d'argent dans les caisses qu'il faut dépenser absolument avant le 31 décembre, parce que c'est le problème des subventions. Il faut absolument tout dépenser, sinon les suivantes, vous en avez moins. Bref, Donc, on est parti là-dessus, on ne savait pas où on allait jouer, on ne savait même pas si on allait le faire. On a juste commencé à travailler dans des conditions complètement roots, comme on dit. C'était chez lui, à Tourcoing, puis ensuite dans une salle de classe, bon, bref. Et à un moment donné, il m'a dit, est-ce que tu accepterais de faire des work in progress, c'est-à-dire des présentations du travail dans l'état où il est, dans des classes de terminale. J'ai dit, bien sûr. Et donc, nous l'avons fait. Et à la fin, à chaque fois qu'on présentait le spectacle, on l'a fait à Valenciennes, à Arras, à Béthune, à Lille, et puis ensuite, j'étais professeur au conservatoire du municipal du 13e arrondissement, au conservatoire du 13e, et on l'a fait à Épinay-sur-Seine. Et à chaque fois, à la fin, je disais aux élèves, bon, ben voilà, ce texte nous parle, on s'est dit que c'était intéressant de le transmettre aux gens, mais est-ce que vous pensez que ça vaut le coup ou pas? Et alors, à chaque fois, les élèves nous ont répondu oui, et puis après, ils s'occupaient plus du spectacle, ils parlaient du texte, et ils débattaient entre eux du texte. Donc, ça a été pour nous une preuve que de faire entendre ce texte provoquait chez ces jeunes le désir de débattre. Bon, à partir de là, voilà, il s'est trouvé qu'il y a des gens qui ont été intéressés, qui ont accepté de prendre. On l'a joué au Festival d'Avignon et puis ça a été parti. Bon, voilà comment ça s'est passé. Donc, au départ, nous n'étions pas sûrs. Nous sommes lancés par passion pour ce texte et nous n'étions pas sûrs que ça valait le coup de le transmettre comme tel. Alors, on sait évidemment, en travaillant, la question qui était centrale, c'était il faut absolument qu'on puisse faire entendre ce texte de manière que n'importe qui puisse y accéder au moins en partie. Bon, on était conscient que c'était un texte difficile, mais qu'au moins ça puisse être en partie entendu. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus, hein, sur cette idée. Bon, ensuite, donc, on a commencé à jouer, et très vite, je me rappelle, quand on en parlait sur l'exploitation du spectacle, j'avais dit moi ce qui m'intéresse c'est pas le jeu, bon c'est bien d'aller jouer dans des scènes nationales etc, mais ce qui est important c'est d'aller jouer dans des endroits où ce texte n'aura aucune chance d'être entendu, et nous avons eu la possibilité de faire cette expérience à plusieurs reprises dans des petits villages autour de Compiègne, dans des toutes petites villes du Nord-Pas-de-Calais, je pense à Marquise, par exemple. Et alors, une expérience, je me permets de parler de ça, parce que c'est une chose qui m'a bouleversé, même m'a fait pleurer, dans une banlieue de Lille qui s'appelle M, H-E-M, qui est vraiment, vraiment la banlieue la plus pourrie de la région lilloise, enfin, au dire des gens, hein, ça c'est des légendes, bien sûr. Enfin, banlieue très peu riche, avec vraiment des cités, et puis des jeunes en déshérence et dans la délinquance. Et il y a un homme, qui est au départ un homme de théâtre, mais qui avait fait aussi une formation d'animateur, Jean-Maurice Boudel, je dis son nom parce que c'est vraiment un saint. Et ce type s'est consacré au quartier. Il a commencé par inviter des jeunes qui étaient en pleine délinquance, drogue, tout ce que vous voulez. Il les a invités à des espèces de jeux de rôle, comme ça. Puis petit à petit, il a commencé à leur faire des espèces de spectacles. Et puis, quand ils ont commencé à faire des spectacles qui venaient à peu près debout, il a invité les parents, les cousins, les cousines. Et ce lieu, le théâtre de l'aventure, il est devenu le lieu des gens. Et à la fin, dans les dernières années, dans ces 15 dernières années, il y a eu d'ailleurs quelques jeunes qui sont devenus des professionnels, soit acteurs, soit musiciens, et puis ils ont invité 1, 2, 3 spectacles professionnels à se jouer dans ce lieu. Alors, dans des conditions, là aussi, il fallait accepter un cachet minimum et tout, mais bon, alors, on me l'attendait à moi, je dis, ah oui, j'y vais. Et j'ai été bouleversé parce que par une chose, je vous raconte ça parce que c'est vraiment un détail qui est tellement magnifique. Je suis arrivé pour répéter l'après-midi avant de jouer le soir, et quand je suis sorti, il y avait une dame très âgée qui installait sur des toutes petites tables en plastique des napperons au crochet qu'elle avait fait elle-même, et dessus des petits pots de prunes vertes ou de violettes qu'elle avait achetés elle-même. Alors je la regardais, j'étais tout étonné, et je lui ai demandé, mais c'est formidable de faire ça. Et elle m'a dit, mais monsieur, c'est la fête. Et donc on a joué le spectacle, et après on a eu un échange, on buvait un coup autour de ces petites tables avec ces petites fleurs, et plusieurs personnes m'ont dit, vous savez, c'était difficile le texte, mais on voudrait vous remercier parce que on a été honoré que vous veniez nous dire un texte aussi difficile. Et là, j'ai pas pu m'empêcher de j'ai pas pu retenir mes larmes, parce que voilà, j'estime que c'est ma mission, moi, en tant qu'acteur. Voilà.
Merci François pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ici et ici.
C'est pas une question que je vais dire, c'est une constatation. Vous êtes dans un centre culturel où moi j'ai vu. Samia, je m'excuse, je ne voulais pas qu'on parle du centre, mais moi je voudrais en parler ce soir. Moi j'ai vu en construction ce centre. Pendant 20 ans, j'ai fait partie du bureau, donc voilà. Et ce centre, c'était le plus beau de Belfort, parce qu'on avait des centaines d'abonnés, des dizaines de bénévoles. Et à savoir qu'on a fait des choses magnifiques dans ce centre, à savoir un spectacle chaque année où les enfants des familles défavorisées au possible qui participaient avec les mamans, fallait voir, pendant un an, on préparait cette fête, ce spectacle qu'on donnait une fois par an, entre parenthèses. En plus, il y avait des dizaines d'ateliers, à savoir très très enrichissants pour les enfants, surtout. Et voilà, un fameux maire est arrivé, il a dissous toutes les associations, quelles qu'elles soient, surtout culturelles. Et moi, je suis très, très en colère après ça, parce qu'il y a des dizaines, souvent je vois, parce que maintenant j'habite au résident, j'étais du quartier vers le bas, maintenant j'habite au résident, et je vois des anciens bénévoles, ou même des participants, avec des familles, et qui me disent, mais Chantal, on ne peut pas refaire ça. Je dis, non, c'est pas possible, pour le moment, c'est pas possible. Alors j'espère que ça reviendra. De tout cas, j'espère, beaucoup de personnes, j'espère que ça reviendra. Voilà. Merci.
Oui, bonsoir. Il y a une dimension que vous n'avez pas évoquée, c'est le jumelage. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en faire une, en quelque sorte un bilan. Souvent, c'est des notions qui ont besoin d'être, des activités qui ont besoin d'être dépoussiérées, on le sait tous. Mais il y a un vecteur, si tant est que vous souhaitiez le redynamiser, il y a un vecteur extraordinaire à mettre en place, c'est la liaison en général des associations bénévoles avec les écoles et les collèges. Parce que qui dit école et collège, ça concerne évidemment les parents. Et aujourd'hui, dans les temps que nous traversons, je pense que l'ouverture aux autres est une notion absolument essentielle. Alors je ne sais pas si vous pouvez nous dire des choses sur ce, dans ce domaine.
Merci. Alors, pour évidemment répondre à Chantal, c'est évident que nous avons connu quelque chose de violent, et les bénévoles qui ont vécu cette mise sous tutelle de façon autoritaire, eh bien en fait ce que nous on pensait qu'ils allaient faire, c'est qu'ils se sont éloignés de nos structures. Et aujourd'hui nous avons de beaux équipements dans chaque quartier, mais pour la plupart qui vivotent, et donc des équipements qui ont été désertés par les bénévoles. Donc c'est aussi pour ça que nous proposons de remettre la vie associative. Et ça, c'est pas parce qu'on va décider, décréter que dorénavant ça sera une vie associative qu'on pourra revenir à ce qui se faisait avant. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il est facile de détricoter ou de démolir, et beaucoup plus difficile et plus long de reconstruire. Sur les jumelages, je dois dire que c'est un sujet que nous n'avons pas abordé, lors de nos réflexions. Mais aujourd'hui, on peut en faire un bilan très simple, c'est que les jumelages ne vivent plus. En tous les cas, la coopération internationale, qui avait été aussi très volontariste à une époque à Belfort, n'existe quasiment plus, ça vivote. Et puis, moins on en fait, moins on en parle et mieux on se porte, parce que d'ailleurs, on a eu très très peu de rapports au conseil municipal sur cette question. Mais c'est un sujet, en effet, qu'il faudra non seulement dépoussiérer, mais peut-être réinterroger aussi. Est-ce qu'il y a d'autres...
Moi, je me posais la question du lien entre tout ce que vous proposez. Je pense notamment à ce qui autour de la peinture et de l'art urbain. Quel lien vous comptez je trouve que c'est deux bonnes. L'idée est bonne, etc. Mais pour le coup, moi, je me demande si vous ne pouvez pas associer les deux
personnes. Associer,
je pensais, je me dis, pourquoi pas l'artothèque. Vous parlez de la bibliothèque. Aussi par rapport à la passe culture qui le lien avec la carte d'avantage jeune aussi qui est aussi quelque chose qu'on a actuellement aussi et
d'autres interventions, questions? Oui.
Est-ce que je peux me poser une question? Parce que on a, à partir du crédit, c'est une expérience extrêmement malheureuse qui a été cette tentative de fusion extrêmement mal préparée avec Montbéliard, donc dans le cadre de l'Eurobel. J'ai essayé de me battre contre pendant tout le temps où j'étais encore là, mais voilà, ça s'est déclenché et très très vite, ça s'est cassé. Ça a beaucoup fragilisé le crédit, c'est très malheureux, mais il reste que cette dimension de l'Eurobel, elle est une réalité, une potentialité, en tout cas une potentialité à l'échelle intéressante pour développer des projets culturels, des projets notamment par exemple décentralisés, puisque vous parliez d'aller jouer en dehors des scènes nationales et des théâtres, et on parlait avec Bastien, on a parlé il y a quelque temps, de redonner la possibilité à un club comme le Granit de créer des spectacles dans ses murs, à la coopérative, etc. Mais pas seulement pour tourner dans les scènes nationales, mais aussi pour tourner dans des espaces géographiques comme celui de l'Urbaine, dans des lieux qui ne sont pas des lieux de théâtre, etc. Et ça, ça voudrait dire construire un maillage, construire avec les autres collectivités des projets culturels qui ne soient pas simplement du bidouillage de mécanos comme ce qui a voulu se faire entre le Massif National et le Granit. Et ça, c'est une belle ambition qui ne sera pas comme ça, mais voilà, j'espère que vous aurez envie de vous atteler à ça.
Alors, sur cette question, on n'a pas développé ce soir l'ensemble du programme, mais sur le volet évidemment de l'attractivité, nous avons des propositions fortes pour la construction de cette aire urbaine dans laquelle on a déjà posé quelques jalons, mais qui nécessite d'entrer dans une deuxième ère pour représenter en réalité un territoire cohérent en matière économique, un territoire d'attractivité, et ce territoire devra évidemment être cohérent au niveau culturel. Alors, la mode de la diffusion, ce sont souvent des fausses bonnes idées. Hein. On arrive avec une idée de fusion parce que derrière il y a des fantasmes, on va peut-être réduire les coûts, alors que les fusions, on a bien vu que c'est très très compliqué de réduire les coûts, ou alors on casse l'outil. Notre idée à nous, c'est plutôt de développer au sein de ce bassin de vie qui est Belfort-Montbéliard, les complémentarités. Et donc, les complémentarités culturelles seront évidemment tout à fait intéressantes, mais ça nécessite qu'on rentre déjà dans une culture de projet et qu'on n'aborde pas les choses de façon institutionnelle. L'idée, ce ne sera pas de dire on a deux scènes nationales, qu'est-ce qu'on en fait ? Ce sera plutôt de dire on a deux scènes nationales, elles ont des particularités, des spécificités, quel projet on leur fait porter ensemble pour faire aussi territoire. Peut-être que Bastien complétera sur cette question. Sur la question madame, je veux dire que je n'ai pas tout entendu en fait. Alors sur le pass étudiant, l'idée c'est de proposer un outil pour les étudiants. Ceux qui ont la carte jeune ont en effet des avantages multiples, etc. Tous les jeunes ne prennent pas la carte jeune. C'est une proposition locale, à la fois pour montrer aux étudiants qu'ils arrivent dans une ville qui a envie aussi de s'ouvrir à eux, où il y a des équipements publics intéressants à découvrir, et c'est aussi la façon dont on les amène en réalité dans un échange et bien sûr dans un lieu que l'on souhaite qu'ils découvrent. La deuxième question, peut-être que Bastien peut y répondre, c'était sur la cohérence, mais je n'ai pas entendu sur quoi et quoi.
Le graphe et les arbres.
Ah d'accord. Bien sûr, les choses ne s'opposent pas. L'idée, c'était de créer un événement qui soit plutôt un concours et qui soit en complémentarité avec ce que l'on propose toute l'année. Et l'idée du graphe urbain, ça n'est pas que du graphe. En fait, la proposition, c'est un concours pour des artistes, mais ça pourra être de la sculpture, ça pourra être du graphe, ça pourra être une œuvre éphémère qui pourrait être par exemple musicale, etc. Bon, l'idée c'est plutôt de faire des œuvres qui ne sont pas éphémères parce qu'on souhaite évidemment faire un parcours. Ensuite, dans la ville, c'est simplement ramener à la fois la culture dans la ville, mais aussi montrer d'autres formes de culture, beaucoup plus urbaines, qui se développent aujourd'hui de plus en plus, et faire qu'il y ait un dialogue entre les autres formes de culture et notamment la peinture que nous avons évidemment dans nos musées.
Oui, je vais peut-être répondre en complément sur la question de l'aire urbaine posée par Thierry. Peut-être qu'on peut, sauf s'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir, décider de s'arrêter là. Il est déjà 22h30. Un mot d'abord sur la question de l'aire urbaine. Samia a dit l'essentiel en disant qu'il faut travailler sur les complémentarités. J'ajouterai une chose pour rentrer à peine plus dans le détail. Si on prend le cadre spécifique des scènes nationales, aujourd'hui, on vit dans un bassin de ville d'un peu plus de 300 000 habitants. Il existe des concurrences entre Belfort et Montbéliard. Beaucoup les déplorent, mais elles s'entretiennent avec le temps, dans une espèce de fatalité. Et je pense qu'on n'a pas pris le sujet par le bon bout pour sortir en fait d'un affrontement inutile, et pire qu'inutile, néfaste, idiot, parce qu'on s'affaiblit mutuellement. Quand deux nains se tapent dessus, ils n'arrivent pas à grandir. C'est pas en cette aventure, en tout cas, qu'ils arriveront à là. Quand je dis deux nains, ça ne peut pas être désobligeant ni avec Belfort ni avec Montbéliard. Mais je parle à l'échelle de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, à l'échelle de l'Europe. Les grandes villes monde, les capitales économiques régionales, les 15 à 20 métropoles qui comptent aujourd'hui dans le pays, qui structurent économiquement sur un plan administratif, politique, le pays. Pour l'instant, nous ne sommes pas sur la carte. Et pourtant, nous avons ici le plus grand bassin de vie à l'échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté, plus important que Dijon. Et les gens vivent ensemble. Ils habitent à Héricourt, ils vont bosser à Grand Villard, à Bonnel, ou à Montbéliard, à Bonnecourt, à Belfort, même parfois à Giromagny. Ils vivent à l'échelle de ce bassin de vie, qui est aujourd'hui sur trois départements, qui a deux scènes nationales dont je pense qu'elles n'ont pas été pensées ensemble, pour dire les choses de manière un peu directe, Belfort a obtenu la Cité nationale enfin, dans les années 80, je ne sais plus à quelle date, et Pierre Moscovici voulait la sienne à Montbéliard. Ce n'est pas un problème en soi. La question, c'est à quoi ça correspond en termes de projet artistique. Et là, je crois qu'aujourd'hui, on est dans un déficit total. Et ça s'est vu particulièrement au moment de la tentative de fusion des deux Sèvres. Donc la question aujourd'hui, ce n'est pas tellement de savoir s'il y en a une, s'il y en a deux, ou trois. Enfin, ce n'est pas le sujet. Le sujet doit être posé. Il y en a deux, mais deux, pour quoi faire? C'est quoi les contenus? Et quand ça vient par des complémentarités, on sait qu'à Belfort, il y a au théâtre Granit une très forte identité qui s'est structurée en particulier autour du théâtre. Il n'y a pas que du théâtre. Pour ceux qui dirigeaient, mais tu restes encore aujourd'hui, évidemment et fort heureusement, il y a de la musique, de la chorégraphie, enfin, plusieurs arts. Mais il a une identité très forte autour du théâtre. Du côté de Montbéliard, il y a une identité plus forte sur les enjeux, on va dire, enfin, sur les spectacles chorégraphiques, les spectacles à dimension numérique, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'offre culturelle construite à l'échelle de l'ère urbaine. La question qui doit être posée progressivement, c'est comment on fait pour qu'il y ait, à l'échelle du pôle métropolitain et de l'ère urbaine, une programmation artistique qui soit pensée, non pas l'une contre l'autre, mais ensemble. Et je sais que Thierry a fait des tentatives, je crois pouvoir dire, nombreuses pour faire avancer la coopération. Mais bon, pour coopérer, il faut être deux. Et de ce point de vue, je pense, y compris on pourra se poser un jour la question de la structure, mais ce n'est pas le sujet urgent aujourd'hui. Le sujet, c'est les contenus. Et je pense qu'il faut trouver un terrain d'entente avec Montbéliard. Si on construit une offre unique, orientée peut-être davantage la scène nationale théâtre du Granit sur les spectacles vivants de type théâtre, et orientée davantage celle de Montbéliard sur d'autres types de spectacles vivants, en sachant que si on construit l'offre à l'échelle de l'ère urbaine, il n'y a pas à Montbéliard 50 ou 100 000 personnes qui sont potentiellement intéressées par les spectacles art numérique et chorégraphiques, mais 300 000 à l'échelle de l'ère urbaine, et idem pour le théâtre de Belfort, le théâtre Granit. Donc c'est cette question-là qu'il faut étudier. Peut-être un jour faire évoluer les deux structures pour ne pas avoir les mêmes appellations, les mêmes obligations vers un centre dramatique national pour l'un et maintenir la logique de scène nationale pour l'autre. On peut évoquer ces sujets-là. Mais la question, c'est effectivement d'être capable, dans un débat avec les Montbéliardais qui a une dimension psychologique importante, les Montbéliardais pensent que Belfort a tout pris. La scène nationale en premier, la gare TGV est dans le territoire de Belfort, l'hôpital Médor est dans le territoire de Belfort, l'université, l'UTBM, est dans le territoire de Belfort, même si c'est sur l'espace quotidien. Il faut comprendre, nos amis Montbéliardais, ils sont dans cette psychologie-là. Alors, ils ont eu un certain nombre d'équipements, l'Axo, ils ont eu le phare. Il faut retrouver l'esprit de coopération qui a existé à l'époque entre Louis Souvet et Jean-Pierre Chevènement, qui a disparu depuis. Et on dit que le poisson pourrit par la tête, si les responsables politiques ne sont pas capables de donner le là, en étant dans un acte 2 de l'ère urbaine, de trouver les accords intelligents, en disant, écoute, toi tu fais ça, moi je fais ça, et on voit comment on valorise les deux choses qu'on fait ensemble dans cette complémentarité. Si on fait ça, on y arrivera. Si on ne fait pas ça, je suis très pessimiste sur la capacité de rebond de notre territoire à la Franche-Comté, parce que par ailleurs, en plus, on prend plein fouet la désindustrialisation. Donc, c'est une ardente obligation aujourd'hui de trouver avec nos amis montbéliardais des solutions sans être dans une logique concurrente idiote, et ça veut dire trouver des solutions, chers amis belfortins, faire des compromis, faire des concessions, laisser à Montbéliard certains équipements, d'autres à Belfort, certaines politiques culturelles à l'un, d'autres politiques culturelles à l'autre. C'est comme ça qu'on arrivera à construire l'ère urbaine. Mais pas en se phagocytant l'un l'autre, en regardant jalousement ce qu'a l'autre. Voilà. C'est un changement d'état d'esprit, c'est même une révolution d'état d'esprit. Et demain, si les responsables politiques élus à Montbéliard et à Belfort arrivent à entamer ce dialogue-là, alors on encouragera, on facilitera le travail des directeurs des scènes nationales, du directeur de, ou de la direction du Centre chorégraphique national pour bâtir, en fait, ben, l'offre. Il y a plusieurs villes et plusieurs entités administratives, mais il n'y a qu'un seul bassin de vie et au fond, qu'une seule population. Je terminerai sur un mot, un tout petit mot, pour remercier infiniment, ne suffit pas, mon ancien professeur de théâtre et néanmoins ami, François. Ça faisait voilà, plusieurs temps, on a parlé avec Samuel, il m'a dit tout de suite, c'est une super bonne idée. Et ça a été accueilli, je crois, avec beaucoup d'enthousiasme. Le texte de la Boétie, c'est un classique. Et l'écrivain italien Italo Calvino disait, à quoi on reconnaît un classique? Un classique, il n'a jamais fini de dire ce qu'il a à dire. Et je crois que ce soir, tu nous as démontré, à travers la merveilleuse interprétation que tu as livrée, que ce classique, qui n'est pas notre langue exactement, qui est très exigeant en termes de compréhension, n'a pas fini de nous dire, dans la France des Gilets jaunes, dans la France qui souffre, dans ce canton de Belfort, où nous sommes élus avec Samia, et où, ben je ne donnerai un chiffre, le revenu médian par personne qui vit dans notre canton, c'est moins de 1 000 euros par mois. Donc dans cette France-là, pouvoir dire le discours de la servitude volontaire de la Boétie et dire aux citoyens et aux citoyennes de cette ville, ça dépend de vous, c'est aussi le message qu'on voulait envoyer pour les 15 et 22 mars prochains.
Faisons tout en tandem. Deux informations, parce que cette élection est un peu, je dois dire, un peu folle. Elle est un peu folle. On a depuis quelques jours du grand n'importe quoi qui sort. Donc je pense qu'il faut peut-être remettre un peu les points sur les i. Le 15 mars, les Belfortins auront à choisir, nous l'avons égrené ce soir, la prochaine équipe qui va conduire la destinée de cette ville, de cette agglomération et de cette aire urbaine, vous l'avez entendu ce soir, pour laquelle nous avons vraiment une grande ambition. Nous avons fait le choix, Bastien et moi, du tandem. C'est un choix qui est à la fois original, mais qui envoie plusieurs messages. Le premier, c'est le fait qu'on rentrera dans une nouvelle ère à Belfort du non-cumul de mandats entre le poste de maire et l'agglomération, le président de l'agglomération. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est qu'on entrera également dans l'ère de l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment sur les espaces de gouvernance et la responsabilité. Et c'est aussi pour ça que nous annonçons d'emblée le binôme que nous formons. Le troisième élément, c'est de dire que ce soir, vous en avez découvert une partie, vous en découvrirez dans les prochains jours, dans vos boîtes aux lettres, l'ensemble des propositions que nous avons souhaité vous faire. Nous avons pris le temps d'y consacrer beaucoup, beaucoup d'heures de travail, d'abord parce qu'on est dans l'exigence, et vous l'avez vu ce soir, parce que aussi nous avons souhaité construire un programme dans lequel tout a été arbitré entre nous en amont. Donc ceux qui essaient d'égrener cette petite musique, de dire c'est un partage de poste ou bien ils vont jamais s'entendre, on leur dit simplement que le programme que nous présentons, nous l'avons tellement travaillé que nous le portons à deux. Il se portera à l'échelle de la ville. Il se portera à l'échelle de l'agglomération et nous le ferons en intelligence parce que l'un nourrira l'autre. Et il n'y aura pas d'agglomération forte, il n'y aura pas d'aire urbaine forte s'il n'y a pas une ville de Belfort forte. Parce que Belfort sera... Belfort sera le chef d'orchestre de ce nouvel espace de l'aire urbaine. Et c'est aussi pour ça que je voudrais alerter les, comment dire, les esprits naïfs qui peuvent être emmenés dans un discours où Gauche et droite n'existent plus si la gauche et la droite étaient présentes ce soir dans ce centre culturel. Il y avait une réunion de la droite républicaine, voilà, conservatrice en bas, au sous-sol, et il y avait une réunion ce soir des progressistes d'une liste de gauche qui se veut de gauche, qui ne reniera pas sa gauche, qui a combattu pendant un mandat à la fois localement pour défendre les valeurs de gauche, mais qui a défendu également les grands dossiers nationaux et qui s'est opposé au gouvernement Macron, comme on a pu s'opposer, nous, au gouvernement Sarko ou au gouvernement précédent. Je voudrais juste rappeler, la gauche et la droite existent. Et alors, ces listes qui veulent faire croire aux Belfortin que gauche et droite, c'est pareil, ou que dans nos listes du centre, portées par le modèle, portées par La République En Marche, il y aurait des gentils citoyens de gauche pour justement essayer encore d'apporter plus de troubles. Il y a plusieurs listes de gauche, évidemment, mais il n'y a pas de liste de gauche au centre, clairement. Et il n'y a pas aujourd'hui dans les têtes de liste qui sont présentées par le modèle ou En Marche une politique de gauche. Demain, ils défendront le gouvernement Macron à la fois pour le Sénat et pour l'ensemble des politiques qui déconstruisent aussi notre pays. Je voulais vraiment faire ce coup de gueule parce que il y a beaucoup de camarades de gauche qui sont un petit peu trompés en ce moment et je pense qu'il est nécessaire de rétablir les choses. Voilà, vous savez ce que vous avez à faire demain, le 15 mars et 22, c'est de porter notre tandem, Samia Javert pour les responsabilités à la ville